D'abord, moi j'aurais plusieurs milliards de questions sur résumé.
Oui, c'est ça. On va commencer par une.
Ok. Donc, j'aurais des milliards de questions à poser. Moi, j'ai raté le premier cours, donc...
Donc, on va assister à tous les cours, monsieur, là.
Les absents toujours tard.
Ben oui, c'est ça. Avez-vous les plans de cours aussi? J'ai pas oublié de lire le plan de cours, là. Il y a bien des affaires qui sont écrites là-dedans.
C'est ça, le plan de cours.
Voilà. Non, je t'inquiète,
je vous écoute. À moitié.
Ah, c'est bon, ça. Oui, je t'inquiète, je vous écoute.
Mais c'est ça, vous partez à un moment donné avec, vous dites qu'il y a trois livres et trois théories associées à ces livres-là.
Oui.
Mais là, vous ne expliquez pas suffisamment pour que j'arrive à comprendre c'est lesquels, puis vous ne les nommez pas, puis qu'est-ce qu'ils impliquent.
Oui.
Fait que je ne comprends pas trop où qu'on s'en va avec ça. Puis de l'autre côté, il y a un côté concret. Je trouve que c'est très éthéré. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire faire des co-op? Est-ce que ça veut dire faire des OSBL? Autre chose? Je ne sais pas, là. Je ne sais pas combien il y a d'organisations démocratiques de l'économie possible. Quel modèle a été essayé? Quel autre modèle théorique pourrait être fait? Donc, il y a plein d'affaires que j'ignore, là.
Ah, rassurez-vous, moi aussi. Fait que, ben, je vais le faire, OK? Je vais y aller. Si on peut remettre la slide avec les livres dessus, s'il vous plaît. Là, c'est sûr, c'est toujours un défi, là. Puis j'ai, comme je vous disais, là, j'hésitais jusqu'à 5 minutes, là, avant de y aller, là, mais... je peux y aller à gros traits. Ceci dit, tu sais, ça veut pas dire que ça va être plus clair parce que ça va pas être complet, tu sais. Déjà, juste de lire ces affaires-là, c'est pas les gars, c'est juste des gars d'ailleurs, ce serait comme ça paraît aussi, ce serait intéressant aussi qu'il y ait plus de femmes qui travaillent sur ces enjeux-là, ça paraîtrait dans le souci, puis il y aurait sûrement une dimension plus concrète qui émergerait des économies post-capitalistes, parce que sur la littérature post-capitaliste, les gars pensent à des modèles abstraits et les femmes vont travailler sur des façons concrètes d'organiser l'économie. À date, de ce que j'en connais de la littérature, c'est à peu près comme ça que la division sexuelle du travail dans le domaine se manifeste. Fait que ceci étant dit, c'est pas en les détaillant rapidement que vous allez en sortir une idée plus claire, mais je peux faire un effort pour y aller short and sweet. Fait que Albert et Anno, 91, économie participaliste, ils ont d'un bord des comités de production, des conseils de production. Donc, vous autres, à votre job, vous seriez membre d'un conseil de production, de même que tous vos collègues. Vous émetteriez, vous diriez, en fait, vous enverrez à la société, en fait, à ce qu'on va voir dans deux minutes, qui s'appelle l'instance de facilitation, là. Ça s'est traduit. C'est tout en anglais, là. Mais bref, une instance de facilitation qui relie les conseils de production aux conseils de consommation. Donc, dans votre rôle de travailleur et avec vos collègues, vous allez envoyer, vous allez émettre à la société la quantité de marchandises que vous voulez produire et aussi le nombre d'heures que vous êtes prêt à travailler et aussi plein d'autres soucis qu'en tant qu'unité de production, qu'entreprise, vous voulez faire pour l'année à venir, mettons.
Comme matière et énergie produite.
Idéalement, c'est ça. Eux autres, ils vont pas là. Eux autres, c'est juste combien de divans on va produire, combien d'heures de travail on est prête en gang à mettre dans notre shop pour l'année à venir. Fait que ça, c'est du côté de production. Mais comme à peu près tout le monde ici, on a plusieurs rôles économiques. Quand vous êtes rendu à la maison, vous êtes aussi membre d'un conseil de consommation. Donc, qu'est-ce que vous allez consommer dans l'année à venir? Et là, c'est pas une demande. Hein? Quand vous envoyez, vous dites, ben moi, je prévois m'acheter des bottes d'hiver cette année. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. C'est pas une commande que vous faites et que vous n'allez que pouvoir consommer ce que vous annoncez. C'est justement une annonce. Vous dites, je prévois consommer. Mettons, m'acheter une paire de bottes d'hiver, acheter mon manteau d'hiver, il commence à être déchiré un peu. Je prévois changer telle affaire chez nous. Donc ça, vous écrivez tout ça dans un plan de consommation à différents degrés de précision. en fait, vous écrivez pas paire de souliers. Là, c'est ça, il y a le problème. La paire de souliers à talons rouges de taille 9,5. Comment qu'on agrège toutes ces affaires-là? Mais ça, je rentrerai peut-être pas là-dedans, mais on va dire, vous allez écrire là, dans votre patente, idéalement, un Excel ou un beau... évidemment, pas à mine ou à la main. Puis, petite parenthèse, mais quand je vous ai dit tantôt qu'il y en a qui disaient que l'économie n'était pas planifiable, c'est que les calculs d'heures qui ont été faits se basaient sur des calculs à mitaine. Il n'y avait pas d'ordinateur. T'sais. Ouais, c'était comme... Ouais, c'est ça. On est comme loin de... C'est ça. Dans votre rôle de consommateur, consommatrice, vous annonceriez à l'économie, au producteur, qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous prévoiriez consommer dans l'avenir. C'est pas bien grave si vous consommez pas de tafet. C'est des informations que vous envoyez aux entreprises qui vont leur être utiles pour savoir quoi produire. Ça, ces informations-là, les entreprises aujourd'hui les ont pas ou peu. Ce qu'ils vont faire, sur quoi ils vont se baser, évidemment, ils font des études de marché qui sont des ignominies d'un point de vue scientifique. Quiconque a déjà fait des études scientifiques, en tout cas, ça. Passons. Puis, en fait, sur l'échange marchand, donc ils disent, cette année, on a vendu un certain, je sais pas, 250 000 iPods, on prévoit en vendre 300 000 l'année prochaine. Donc, sur les ventes d'une telle période, ils vont prévoir une quantité X de ventes de l'année prochaine. Donc, en fonction de ce qui s'est vendu, ils vont prévoir ce qui va se vendre aussi pour l'année d'après.
On a déjà Google qui peuvent prévoir à l'avance savoir si ta fille est enceinte parce qu'elle a demandé quelque chose concernant ça.
Oui, je viens d'être papa, puis je vous dirais que ça n'a pas pris tant que j'ai eu des pubs de couches sur Facebook.
Ben, c'est ça.
Mais il y a une question là-dessus, puis je vais peut-être...
Donc, Google, qui est privatisé, s'il devient collectif, Google, il va tout nous fournir ça.
Fait que la capacité de planifier l'économie dépend beaucoup de la quantité et la qualité des informations qu'on a aussi. C'était l'enjeu du débat là, des années 30, comme on avait tantôt. Et la question d'Internet ou même des capacités technologiques qu'on a, elle pose que en termes d'informations, c'est majeur qu'est-ce qu'on a accès. Mais est-ce qu'on fait juste nationaliser ou socialiser le big data? Puis on harnache ça sur le greater good. Est-ce que c'est possible ou est-ce que toute la quantité de données qu'on a dégagée, est-ce que intrinsèquement cette quantité de données-là qu'on est capable de dégager, est-ce qu'il y a un problème éthique avec ça, ces données-là? Ça, c'est des questions qui sont ouvertes, que déjà dans les années 90, ça ne posait pas cette question-là, mais qu'aujourd'hui, c'est ouvert. Là. Moi, je n'ai pas encore de réponse à ça, puis s'il y en a qui en ont, je suis vraiment ouvert à en discuter avec vous autres. Bref, je reviens quand même, c'est ça qui arrive. Eux autres, fait que t'as conseil de producteur, conseil de consommateur, puis ils s'envoient des informations comme ça, la quantité d'affaires que je vais consommer dans une année, la quantité d'affaires qu'on va produire dans une année, le nombre d'heures qu'on est prêt à travailler, etc. Puis là, il y a des itérations entre les deux qui sont comme médiées par l'instance de facilitation. Le nom m'échappe au moment, là, c'est pas bien grave. Puis là, il y a des itérations. Puis à un moment donné, eux autres, ils disent au bout de 5 à 6 itérations, on va être capable d'atteindre un équilibre. Puis là, on pèse supplé, puis le plan peut s'opérationnaliser. Eux autres, ils prévoient qu'on va être capable de faire ça à tous les ans pour arrimer l'économie en termes de consommation puis de production. À gros traits, c'est à peu près ça. Puis on a aussi là, les dénominateurs communs que je vous ai parlé tantôt, l'égalisation de salaire, égalisation de tâches, puis la patente un peu weird, la manière qui gère de la pollution, qui vient plus de Robin Hamilton. Pat Devine, lui, est plus une dimension de délégation.
Le troisième, oui.
Ouais, juste ici qui est le premier, en fait, 1989, à avoir publié le truc. Si vous voulez un schéma de son modèle, il ressemble beaucoup à celui qu'on a mis dans le livre. Bon, mythe 14, page 182. Lui aussi, tout part des comités de production, mais il n'y a pas de comité de consommation. Donc, il y a des comités de production qui sont tous regroupés dans des instances de... dans des comités sectoriels. Fait que, mettons, tous les restaurants sont regroupés dans le même comité aussi de restaurants. Tu envoies un délégué de ton resto, tu l'envoies à comité sectoriel des restaurants. Puis eux autres, ils vont rassembler les décisions de production un peu à la manière de tantôt quand tu achètes le nombre d'heures que tu veux faire, le nombre de marchandises que tu veux produire. Tu envoies ça, eux autres, ça passe par une instance sectorielle pour ensuite s'en aller Comment on a fait ça, nous autres? Nous autres, c'est comme une synthèse, là, c'est comme je disais tantôt, un petit peu audacieuse. Un comité de planification qui, eux autres, va gérer les différents secteurs entre eux. Fait que toutes les tables sectorielles qui sont assises à la même, au même comité de planification. Puis eux autres, ils gèrent l'allocation des ressources à partir des plans qui sont décidés, là, entre guillemets, là, sans rentrer dans les détails, mais à une forme d'assemblée législative qui ressemble à celle qu'on a au Québec. C'est un modèle qui ressemble un petit peu plus au modèle britannique. Là. Si il n'y a pas de conseil de consommation, la consommation n'est pas collectivisée. Il n'y a aucune instance où tu dis « moi, je prévois consommer telle affaire durant telle année ». Et ça, il y en a qui vont dire que c'est un problème parce qu'on a besoin d'instances collectives pour émettre ou pour annoncer notre consommation. Notamment en termes de consommation publique, parce que quand on parle de, mettons, un parc, une fontaine, une piscine, juste que ce soit même des tabacs pique-niques à l'échelle d'une ruelle, là, on a besoin d'instances pour pouvoir annoncer ce qu'on veut consommer avec les ressources qu'on a. Puis, eux autres, Carchet et Cottrell, en 93, ils ont quelque chose de vraiment plus informatisé, qui est vraiment plus centralisé. Tout le monde est plugué sur un réseau central d'ordinateurs. Les autres ne parlent pas d'Internet, là, 93, là, mais c'est comme tout juste. Puis tout est à peu près fait informatiquement et presque automatiquement. Donc, toute l'information circule rapidement d'entreprise à l'autre, à un gros comité de planification qui appelle juste bureau de planification. Non, c'est planning, moi, c'est ça, bureau planning. Puis là, eux autres, il y a un comité qui est très informatisé et qui dispatche les ressources de la manière la plus efficace possible. Donc, en fonction du retour sur investissement de chacune des entreprises, les investissements vont être faits aux entreprises les plus qui font une utilisation la plus optimale des ressources. La manière qui s'arrange pour éviter que ça se traduise dans une pression à la hausse sur les écosystèmes et les travailleurs, ben, pour les travailleurs et travailleuses, c'est la démocratie. Donc, c'est de l'autogestion. Donc, on s'attend à ce que les travailleurs et travailleuses ne votent pas les conditions de travail qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Puis, sur la question écologique, il y a un algorithme qui s'occupe de ça. Faites-vous-en pas.
Excuse-moi. Oui. Ça veut dire que ces trois modèles-là ne tiennent pas compte, ne font pas de critique de la technique, par exemple.
Très peu. Très peu. Parce que Albert et Arnold, économie participative, sont aussi très techno-enthousiastes. Leur modèle a même été qualifié de planification informatisée. Parce que l'instance de facilitation de la planification, ils disent qu'elle pourrait être informatisée. Donc, ce ne seraient pas des humains. En tout cas, ils laissent la porte ouverte à ce que ce soit juste des ordinateurs. Bien, nous autres, c'est comme un ouvrage de vulgarisation, fait qu'on ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais je ne sais plus jusqu'où on est allé, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a une question quand même à savoir, est-ce que c'est possible d'avoir une planification démocratique des flux de matière et d'énergie pour rester à l'intérieur des limites planétaires, pour satisfaire les besoins de tout le monde, par un réseau complètement informatisé, alimenté aux énergies renouvelables, sans boster les limites planétaires. La question de la technique est ouverte là-dedans, puis même en termes éthiques. T'sais. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à un big data en préservant une dimension démocratique par rapport à la technique? Est-ce que d'avoir un gros appareillage, un lourd appareillage technique, ça l'implique que seulement quelques personnes comprennent la nature de cette technique-là sur lesquelles on doit reposer, et donc une forme de technocratie ou d'expertocratie. Est-ce que c'est possible de démocratiser le savoir de la gestion d'un appareil aussi complexe?
Mais je peux faire une sous-question? Ma sous-question, c'est juste de même par curiosité, mais est-ce que quelqu'un a envisagé la durée de temps que ça nous prendrait pour apprendre à fonctionner à l'intérieur? Tu sais, on a été biberonné au capitalisme.
Exact.
Et donc là, il faut comme réapprendre de nouveaux modes de prise de décision, de consommation, d'allocation de ressources,
exact.
De tout finalement.
Ouais.
C'est un nouveau vivre ensemble complètement.
Complètement.
Ça prend-tu 300 ans avant qu'on catche l'affaire?
Je dirais, eux autres à gauche, c'est des économistes néoclassiques, fait qu'ils pensent très peu au sujet, à l'humain, puis au... à sa socialisation, comment qu'on apprend des comportements, comment qu'on les désapprend, comment qu'on les reconstruit, c'est quoi les limites de ça. Pat Devine va dire ben c'est plus sur plusieurs générations. Il dit pas le nombre de générations. Ce que je peux vous dire, moi j'étudie en sociologie, fait que c'est sûr que les changements comportementaux viennent, ben si on veut forcer d'une certaine manière les changements comportementaux, ça doit davantage venir des institutions. T'sais, il faut mettre en place des institutions qui permettent, encouragent et récompensent des comportements de solidarité, d'entraide, de participation publique. On pourrait comme intégrer ces dimensions-là de comment participer à des assemblées générales ou tous les comportements que va appeler cette infrastructure démocratique-là, d'intégrer ça dans un cursus scolaire ou d'avoir aussi des gens qui sont responsables de former des animateurs, des animatrices d'assemblée, puis d'avoir un genre de guilde d'animateurs, d'animatrices d'assemblée, puis qui forment du monde, tu sais, eux autres, c'est aidé à l'année longue, c'est ça leur job. Ou que même ici, puis maintenant, qu'on aille des façons d'apprendre, des simulations avec des collègues, amis, profs, tu sais, on parle même de mettre en place des jeux, tu sais, pour apprendre à comment planifier. On va faire des simulations à l'échelle réelle, mais quand même réduite, là, évidemment, là. Mais comme à mettre du monde autour de la table pour dire, bon, mais qu'est-ce qui est possible? Puis aussi, tu sais, jeux de société ou jeux vidéo, de comment qu'on pourrait faire. Mais il y a quelque chose aussi, effectivement. Je n'ai pas suivi l'ordre des questions, là. Je pense que...
Ben, moi, c'est lié un peu...
OK.
Non, je ne sais pas. C'est lié au livre, en tout cas. La question, c'est... j'ai l'impression que le droit démocratique de planification de l'économie est lié directement à la production ou au travail. Qu'est-ce qu'il y en est des sans-emploi, des sans-abri, toutes ces populations-là marginalisées? Est-ce qu'ils sont pris en compte là-dedans?
Exact. Bien, comme je disais tantôt, en fond, c'est la démocratie des concernés. Tout ça, je pense, sont pas mal d'accord que les gens qui ne sont pas travailleurs ou travailleuses vont pas avoir de droit de regard sur l'environnement de travail parce qu'ils en ont pas. Ils vont avoir un droit de regard sur la consommation, sur leur milieu de vie et sur la société dans leur ensemble parce qu'ils sont quand même des citoyens, des citoyennes à part entière. Fait que ces gens-là auraient accès à des formes de revenus universels garantis. Dans tous les cas, il y a des manières de s'assurer que ces gens-là soient... que leurs besoins soient satisfaits. Là. Ça, c'est certain.
Puis
c'est
gens mentionné qui... dans les
ouais.
Okay.
Ouais. Lui, il y a comme deux fois, il parle de salaire, de revenus universels garantis. On sent que c'est comme une possibilité parce que ça vient dégager du temps aussi pour la planification. Puis l'idée quand même du trop de réunions est importante. C'est une critique qui revient souvent. Puis là-dessus, je suis en train de répondre un petit peu plus parce que c'est une critique qui revient souvent, justement, que le temps de réunion, il ne vient pas s'ajouter à tous nos jobs qu'on a déjà. T'sais, le temps de réunion, il existe, là, t'sais, il est juste accaparé par une gang là, de dirigeants. C'est ça qui arrive. Fait qu'en distribuant le pouvoir décisionnel, ben, il faut distribuer le temps de réunion. Mais ça rentre dans nos jobs. T'sais, c'est pas le soir puis la fin de semaine bénévole. Là, c'est pas de même comme actuellement quand tu es, en tout cas, vous savez peut-être un peu. Là. Fait que voilà. Oui, bon.
Je vous avais mentionné au début que bon, il y a trois grands modèles économiques. Vous avez dit que c'est des modèles anglophones. Vous avez
oui.
mentionné qu'il y avait beaucoup de littérature francophone là-dedans.
Exact.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de nous, qui est de nous, qui est quand oui. même un des grands penseurs économiques actuels, oui. qui propose de ramener l'économie, de redonner à l'économie sa dimension démocratique.
Oui.
N'arrive pas avec une proposition qui ressemblait à un modèle. Ça, c'est de l'une part. Deux, j'aimerais vous entendre sur la position sur Alain Deneau. Deuxième chose, votre modèle démocratique de l'économie tel que vous le proposez, est-ce que ça s'adresse, en tout cas, de la façon dont vous le présentez, dont je le comprends, c'est plus dirigé à des petits, en tout cas, ça me semble davantage applicable à des petits ensembles. Est-ce qu'on peut imaginer une telle théorie, parce que c'est vraiment une théorie, enfin, à l'échelle planétaire?
Donc, commencer par Dono, ça va prendre moins de temps. Je suis pas mal sûr qu'il serait d'accord avec l'idée qu'il faut planifier démocratiquement l'économie. Par contre, il ne procède pas à la proposition d'un modèle opérationnel. Je pense qu'il doit sûrement avoir des raisons que je ne connais pas, mais il ne propose pas un modèle de société ou d'économie alternatif. Là. C'est peut-être une question plus opérationnelle, parce que là, il y a des gens qui se demandent, bon, qui tracent des flèches.
Il demande de redéfinir la notion d'économie.
Oui, ça, on s'entend. Fait que je serais d'accord sur les principes. Là. En tout cas, je ne peux pas y prêter d'attention, mais je ne suis pas mal sûr. En tout cas, c'est compatible avec ce qu'on en fait. Je vais quand même prendre l'autre question qui est comme pas mal plus... en tout cas compromettante, là, mais évidemment, c'est la question de la démocratie économique, c'est quoi les limites en termes d'ampleur, tu sais, en termes de taille? Je pense que la réponse facile, c'est de redécouper en le plus petit de sous-ensemble possible. L'affaire, c'est que dès qu'on, plus on monte, même si on garde des petits sous-ensembles, qui seraient peut-être de taille égale, qui peuvent varier évidemment en fonction de la densité démographique, mais plus on monte, donc mettons à l'échelle internationale, puis ce que eux autres vont dire, même particulièrement eux autres, qui est comme nécessaire, mettons pour un enjeu de crise écologique, parce que la gestion des ressources... Les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique se joue à l'échelle planétaire. Donc, conséquemment, on aurait possiblement besoin d'instances à l'échelle planétaire. Mais là, on s'éloigne de plus en plus. Là. Donc, soit on fait des assemblées générales avec bien du monde, ou soit il y a la distance qui sépare les gens qui prennent les décisions avec ceux qui délèguent à s'étire, à s'allonge. Fait que là, il y a deux positions. Je dirais la position plus anarchisante qui va vouloir avoir une assemblée vraiment grande, et l'autre qui va être l'idée de déléguer de plus en plus là, d'une étape à l'autre. Là. Mais dans tous les cas, je pense qu'on pourrait s'attendre à une position qui serait quelque chose comme une fédération d'entreprises, là, une fédération de fédérations de fédérations. Donc, une délégation de pouvoir à une autre, là, comme ça. Là. Ce serait ça qui vous répondrait. Oui?
Oui, en fait, moi, j'aurais souhaité... je vais poser une question en toute fin. Je vais quand même faire un petit état des lieux, quand même. On a la chance de vivre quand même dans une société qui est occidentale. Et il se trouve qu'il y a une forte... j'ai envie d'aborder le côté sociétal parce que je me dis que c'est vraiment interrelié de toute façon la question démocratique et enfin, la question économique. Et donc je le disais, mais vu qu'il y a une forte insécurité culturelle dans le monde occidental à majorité fortement blanche, si jamais on décide qu'on va communaliser les forces, on va changer de modèle économique et on va permettre au maximum de gens de pouvoir s'intégrer économiquement, d'avoir la possibilité d'avoir une vie décente, est-ce que ça ne ferait pas appel d'air? Est-ce que ça ne ferait pas venir un trop plein de personnes, vu que les Occidentaux dans le monde sont minoritaires? Et il se trouve que dans le reste du monde, il y a quand même un style de vie qui n'est pas vraiment très compatible avec la démocratie comme on la connaît dans le monde occidental. Et donc moi je me disais, mais vu que dans le reste du monde, par exemple, il y a encore énormément d'homophobie, les gens sont très, 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 de façon très, très poussée. Ils connaissent une espèce de religiosité qui est souvent très extrême. Donc, je me posais la question de savoir est-ce que ça serait pertinent aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec l'héritage, avec le contexte historique qu'on connaît, ça serait quoi votre. Qu'est-ce que vous préconiseriez pour permettre à ce que. Il y a comme une espèce d'internationalisation du modèle économique dont vous avez parlé aujourd'hui.
Donc, si je me permets de reformuler, est-ce que, mettons qu'on implanterait là, demain matin une démocratie économique au Québec, puis là, est-ce que ce serait les problèmes que, comme le soudain attrait du Québec deviendrait pour des populations extérieures, qu'est-ce qu'on ferait avec ces populations-là qui ne seraient pas habituées ou qui n'auraient pas l'espèce d'habitus là, ou de les compétences et connaissances à faire fonctionner cette économie démocratique-là? Je pense que si on pense en termes d'institutions qu'on pourrait mettre en place, évidemment, il y aurait quelque chose comme des apprentissages pour participer à ce système-là, puis on pourrait mettre en place, je parlais de mettre en place quelque chose comme une guilde des animateurs ou des animatrices. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des entreprises qui soient publiques, évidemment, mais qui soient en charge de s'assurer que les gens comprennent bien les mécanismes de prise de décision, que ce soit ces gens-là qui circulent puis qui assurent peut-être aussi une présence accrue auprès des populations immigrantes pour assurer leur bonne intégration. Évidemment, là, on parle seulement de la dimension économique, mais évidemment, l'immigration avec un ensemble d'autres enjeux sociaux et culturels. Mais En tout cas, si ça devient comme le modèle québécois, le nouveau modèle québécois, puis là, on a comme un problème de popularité internationale, j'ai comme le goût de dire tant mieux d'une certaine manière. On va former du monde pour exporter le modèle québécois. Ben, en tout cas, en guillemets, mais ou du moins, c'est sûr que d'autres manières, ça pose la question de la limite de la planification démocratique dans un seul pays, aussi, comme on pourrait reformuler. Évidemment, tu sais, ça, c'est quand même un angle mort de ces trois modèles-là, puis il y a encore aussi du travail à faire de ce côté-là, au même titre que la question féministe, il ne parle pas ou très peu de la question du travail domestique. Un petit peu, eux autres, d'inclure le travail domestique dans le calcul de la valeur, que eux autres n'ont comme pas d'argent, c'est juste des heures de travail qui évaluent la nature, la valeur des biens et des services. Donc, un peu la dimension internationale aussi. Mais sur les limites, tu sais, évidemment qu'il va y avoir des pressions capitalistes, puis qu'il va y avoir un ressac capitaliste de la mise en place d'un système qui vient menacer de façon frontale les intérêts de la classe dominante. Puis ça, sur les rapports de force, tu sais, je vous reporte à dans deux semaines, parce que sur les manières d'organiser, puis la façon que vont interagir les rapports de force au moment de la transition, ça va être des questions qui vont être abordées dans deux semaines davantage. C'est plus des questions de.
Est-ce qu'on devrait ouvrir les frontières pour que tous ceux qui souhaiteraient pouvoir venir au Québec, par exemple les personnes qui sont très menacées dans leur pays, on leur offrirait la possibilité de pouvoir profiter de la stabilité économique, la stabilité politique économique du Québec? Est-ce que ça serait envisageable? Alors, je pose la question parce que je me questionnais à ce sujet-là, je me disais, mais... est-ce que on pourrait réussir dans la configuration actuelle, on pourrait réussir vraiment à intégrer les gens qui pourraient venir ici s'installer parce que le Québec serait comme un gros attrait qui offrirait quelque chose qui serait meilleur que dans le reste de la planète. Alors on sait très bien que la population québécoise c'est 8 400 000 habitants. Et avec le flot de population qui serait tenté de venir ici, ça serait comme un peu. Est-ce que ça serait gérable
Mon premier réflexe, c'est de dire que ce serait sûrement pas le plus gros problème qu'on aura à gérer, si ça devient un problème. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme vraiment, là, tu sais, des milliardaires qui vont. Tu sais, ça se peut que l'armée débarque, là, mettons qu'on fasse ça au Québec. Tu sais, il faut quand même envisager. Ou des grèves d'investissement, ou que l'armée américaine débat. Il y a des enjeux vraiment graves de sécurité, même là, si on il faut penser historiquement les pays ou les législations qui ont refusé explicitement la présence du capital sur son territoire, ça a mal fini. Il y a un pan là, de la réflexion qui reste en suspens sur comme l'échelle historique de la réponse, mais je pense pas que l'immigration, en termes... Je vois vraiment pas ça comme un problème, là, a priori. Là. Excusez-moi. Là. C'est rare que les élèves en classe ils sont aussi tard qu'à l'école. En tout cas, oui, je vous écoute, excusez-moi.
Bien, vous avez abordé au début l'espèce de contrôle à faire au niveau des salaires puis des types de tâches.
Oui, oui.
Puis une organisation du travail avec des comités et tout ça.
Oui.
Donc, on gère beaucoup l'appât du gain, le contrôle des tâches et du gain.
Oui.
Mais comment se gère le désir de pouvoir? Par exemple, on a des structures qui vont... qui va décider quels seront les modes de structure, quels seront les organisations?
Oui, bien, en fait, puis... les trois modèles qui vont dire, puis ben, je peux joindre ma voix aux autres là, en disant que la mise en place d'une économie démocratique, ça va pas détruire toute forme de conflit social. Il va rester un conflit social. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en place des mécanismes pour gérer le conflit social, pour que tout le monde ait son droit de regard, ait droit de participer à la gestion, à la distribution du pouvoir, distribution des ressources, distribution du temps de travail, des salaires, etc. Donc, c'est ça qui manque actuellement, c'est que le conflit social, bien, on le subit parce qu'on n'est pas au pouvoir, mais il n'y a pas d'instance pour que la rencontre des intérêts des individus puis des collectifs puisse se faire et qu'il y ait décision à partir de ces intérêts-là qui sont mis autour de la table de façon éclairée. Puis c'est ce que ces gens-là proposent. Ils parlent de négociation coordonnée. Donc, on met les gens autour de la table, puis là, ils prennent une décision sur la base de leurs intérêts, puis sur la base de ce qu'ils sont concernés ou pas. Mais actuellement, on n'a pas ces instances-là parce qu'on est dépossédé de notre pouvoir décisionnel. Fait que je répondrai comme ça. Puis je vais peut-être aller ailleurs. Il y a beaucoup de questions.
Oui, peut-être de shorting. Portez votre regard à votre droite.
J'insisterai, oui, avec des questions peut-être. Oui, donc, je vous écoute.
Moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément, qui me dérange maintenant ici, c'est que je comprends cette économie, je comprends qu'on parle du capitalisme et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que la vision est faite de consommation de ressources naturelles. Dans le sens que je me dis, comment est-ce qu'on conjugue aussi avec la décroissance? Mm-hmm. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas une économie participative si je veux avoir 8 paires de chaussures dans l'année. Fait qu'il y a ça. Puis, comment aussi, au niveau comportemental, peut-être sensibiliser les insensibles, qui sont majoritaires, je pense, en ce moment dans ce monde. Puis, ma dernière chose, c'est que je me dis qu'il y a quand même des exemples dans le monde où on a enchâssé l'environnement dans la Constitution.
Ça va me faire plaisir de répondre parce que c'est vrai qu'il traite semi de l'environnement. Dans un premier temps, je dis déjà, ce qu'il faut comprendre, les questions écologiques, c'est des questions économiques, de prime abord. Parce que justement, l'économie, comme je le disais tantôt, c'est pas seulement. C'est pas Wall Street, la finance, des chiffres, de la production. Ce sont des flux de matière et d'énergie qui sont extraits de la nature, des écosystèmes, qui sont transformés, produits, transportés, consommés et dissipés dans la nature. Et donc, l'enjeu pour... comme j'ai dit tantôt, un des principaux incitatifs à la production, à l'extraction des ressources vient de la croissance économique, la concurrence entre les entreprises privées. Et donc là, lui va nous dire que si on socialise, si on collectivise les entreprises, c'est là la meilleure solution écologique, c'est la meilleure revendication écologique à mettre sur la table. Il n'y a pas tort, parce que la croissance économique, au-delà de demander à planter des arbres, ce qui pose problème à beaucoup d'égards d'ailleurs, ça vient couper l'herbe sous le pied à tout incitatif économique de croissance. Et que là, avec ça, on est capable de planifier en mettant les gens autour de la table, en démocratisant les mécanismes, mettons, d'investissement, de planifier la descente énergétique nécessaire pour arriver dans le beigne. Parce que si c'est encore, comme je répète, comme si c'est encore les gens qui... C'est encore une coordination privée de l'économie, c'est-à-dire des gens qui tirent bénéfice de l'organisation actuelle et de la destruction du monde, parce que c'est ça quand on pense aux industries fossiles, qui prennent des décisions, ben on risque de continuer cette organisation économique-là qui nuit aux écosystèmes et à la nature plus largement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur retirer le volant de les mains, puis le prendre, puis démocratiser l'économie, à mon sens, c'est la meilleure politique environnementale à mettre en place. Ce n'est pas une revendication qu'un groupe peut mettre dans sa plateforme demain matin. Et puis, c'est là un des gros enjeux. C'est quoi la revendication écologique qu'un groupe met dans sa plateforme demain matin? C'est pas si facile que ça parce que c'est une lutte, parce que c'est une lutte qui se déroule sur des décennies. Fait que ça, sur la question environnementale et la décroissance, je vous dirais ça, c'est que la meilleure façon de faire la décroissance, c'est de planifier démocratiquement une descente énergétique et matérielle de notre production et consommation de flux de matière et d'énergie. Puis l'autre affaire, j'ai pas le temps de finir de noter votre autre question.
Comment sensibiliser les
institutions? Ben là, je répondais peut-être un peu comme tantôt j'ai répondu sur la socialisation. Évidemment, il faut mettre en place des institutions que les gens vont apprendre à se comporter de façon solidaire. Là, je parle à l'intérieur des instances économiques, mais il y a plusieurs façons de la comprendre, mais si ce serait de sensibiliser les gens dans leur comportement de consommation. On se retrouve dans le mythe de la surconsommation qu'on a abordé il y a 2 semaines, qu'en fait, la consommation, le consommateur, la consommatrice a très peu de pouvoir sur... va être contraint à surconsommer, en fait. On va parler d'émissions de subsistance, en fait. plutôt que d'émissions de luxe, même si chaque consommateur, consommatrice peut avoir une partie des deux. Si on coupe l'herbe sous le pied à la surproduction, bien, on coupe l'herbe sous le pied à la surconsommation, comme la consommation. Comme tout ce qui est consommé est avant tout produit, et que c'est les producteurs qui ont le gros bout du bâton dans l'organisation économique, bien, c'est à eux autres qu'il faut s'adresser. Il faut arrêter de s'adresser aux consommateurs, aussi de les culpabiliser. Il faut s'adresser aux producteurs. C'est eux qu'il faut viser dans toute politique écologique. Sur la conscientisation des individus, là, je pense qu'il faut... ta culpabilité environnementale change de camp, là, comme on dit dans le livre. Il faut viser les gros pollueurs. Là. Puis le Guardian a sorti un beau travail à ce sujet-là. Là, les Dirty Dozen, les Climate Villains. Là. Il y a une élite anti-transition. Il y a du monde qui travaille activement, qui dépense des millions de dollars pour ralentir, refuser la transition énergétique. Là. On a des adversaires, c'est une lutte écologique. Là. Il y a du monde là, de bord là, qui sont contre nous autres, qui ont des moyens, là. Ils ont des armées. Faut pas... Il y a vraiment une lutte ouverte. Là. Puis si le mouvement écologique refuse d'accepter cette lutte-là, ben, il laisse le terrain ouvert à ses adversaires. En tout cas, ça peut sembler abstrait, mais quand on arrive sur le terrain, là, ça joue fort. Oui, ben, ensuite...
J'ai pas l'impression, mais j'espère qu'elle déborde pas trop sur la semaine prochaine, mais ma question principale, c'est sur la mise en œuvre. J'ai pu comprendre que tu parlais de... Ça pourrait devenir un modèle québécois qui s'exporterait, mais en fait, ce que je vois comme premier problème, c'est qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont des gros acteurs, qui sont situées qu'au Québec. En fait, c'est des entreprises internationales avec des actionnaires, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on récupère ça, sachant que c'est un peu partout.
Ouais.
Et puis, l'autre, c'est si on voit ça à l'échelle du Québec, comme tu disais, on a tendance à suivre un peu ces intérêts qu'on a au niveau local. Et en fait, le risque qu'on est capable de prendre environnemental n'est peut-être pas le même qu'ailleurs dans le monde où, en fait, les impacts se font déjà ressentir plus fortement et où il y a un mode de vie qui est plus modeste. Nous, on pourra avoir tendance à vouloir garder plus ou moins le même mode de vie, ne pas trop descendre et gérer le risque en se disant qu'il n'est pas si grave parce qu'on ne le perçoit pas autant. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut faire, en fait, localement, sachant que j'ai l'impression que c'est intrinsèquement international tout de suite.
Ouais. C'est une des grosses limites. Puis, en plus, nous, les trois... Les trois couples de monsieur, ils ne parlent pas beaucoup de cette dimension-là. Un peu eux autres, c'est sur la mise en place. Des pistes de réflexion là-dessus, ce serait que, par exemple, nos politiques d'importation refusent d'importer des biens de législation qui soient socialement ou environnementalement inférieurs aux nôtres. Fait comme ça, on vient relier nos politiques aux politiques extérieures. Je peux envisager que ça puisse nuire à certaines législations, à certains pays, mais de là à ce que ça l'encourage, les politiques de pauvreté ailleurs, que ça nuise à des populations externes, ça, j'en doute. Une autre des façons de faire, ce serait d'agir comme... Puis là on déborde sur la semaine prochaine, mais rapidement, tu sais, ce serait dans un premier temps, évidemment, d'avoir un parti écolo au pouvoir, ou disons de travailler fort à mettre ce parti-là au pouvoir, d'avoir des mouvements écolo en santé et combatifs, ce qui est le cas au Québec, là, comparé au reste du monde, sûrement des places dans le monde où le mouvement écolo est le plus en santé, et de s'assurer que ce gouvernement-là porte des positions à des instances, mettons, comme la COP, même si on peut... très peu espérer de choses, mais qu'il faudrait quand même signer des traités internationaux sur la décroissance, des traités internationaux qui soient antiracistes, qui soient féministes, qui soient post-capitalistes. On va avoir besoin de solidarité entre plusieurs législations pour être plus en mesure de recevoir le backlash de l'élite quand ces politiques-là vont être mises en place éventuellement. Parce que on a vu ce qui s'est passé dans le passé quand les pays avançaient seuls. Le défi, c'est de synchroniser, de synchroniser les mouvements sociaux dans plusieurs pays différents, avec plusieurs gouvernements différents, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir accepter des traités, pour que chacun des pays ait des positions aussi ambitieuses, sans que ce soit jusqu'à là, mais puis que ces positions-là soient considérées comme légitimes par leur propre population, pour pouvoir faire front commun à des instances internationales, pour en créer des parallèles, pour signer des traités, par exemple, de non-prolifération des énergies fossiles. Il faut vraiment travailler fort à développer un rapport de force. Faut, en tout cas, il y a de la job. Là. En tout cas. Mais moi, c'est la seule voie que je vois. Oui?
Oui, bien, comment ça s'implante, une planification démocratique de l'économie dans des contextes de crise que tu ne peux pas prévoir.
Ouais.
C'est comme un peu antinomique de type planification puis crise qui arrive soudain, comme celle qu'on vient de,
ouais.
De vivre, puis qu'on continue, on est dans le jeu de la crise.
Ouais.
C'est comment ça.
Mais en fait, la planification, c'est plus en mesure de répondre à des crises, justement parce qu'elle regarde plus loin en avant et de façon collective. Premièrement. Deuxièmement, elle serait plus en mesure de répondre, tu sais, mettons, là, il y a un enjeu sur des masques, des enjeux de rareté aussi, là. Mais une planification démocratique aurait été très bien en mesure de faire des conversions industrielles beaucoup plus rapidement, parce que les industriels qui ont refusé, là, tu sais, ils ont dit, ils sont fait appeler, là, par les gouvernements, là, on aurait besoin de votre shop, là, pour construire des respirateurs ou des masques, ils ont dit, non, c'est pas assez rentable. C'est comme, ben, excusez, mais c'est le cas. T'sais, on a besoin de répondre à un besoin. Il y a des gens qui crèvent. On va convertir votre usine. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ça qu'on va faire parce que c'est démocratique. On aurait été davantage en mesure de répondre à la crise. Même chose dans le réseau de la santé. Si le réseau de la santé fonctionnait sur un modèle de planification démocratique de l'économie, ben, il ne serait pas dans l'état où il est. T'sais. Il n'y aurait jamais eu de politique d'austérité qui aurait passé dans le réseau de la santé parce que, comme on discutait à la pause, les infirmières ne se seraient jamais imposé ces propres conditions-là. T'sais, c'est impensable. Fait. Quand on prend des décisions qui nous concernent, on ne prend pas des décisions qui vont contre notre intérêt. Fait que déjà là, en termes de... L'impact de la crise est proportionnel au niveau de préparation à la crise. T'sais, la crise n'a pas frappé égale partout, là, la COVID, en fonction des réseaux de la santé, s'ils étaient plus mieux financés, étaient mieux à même de répondre, il y avait plus d'espace, moins de délestage. Fait qu'on aurait pu s'attendre à ça, puis les conversions industrielles auraient davantage pu se faire aussi. Puis il y aurait... Ouais, c'est ça. Je répondrais... comme ça, là, va être plus en mesure de répondre aux clients. Oui?
Oui, dans les trois modèles,
oui.
On parlait tantôt des gens qui n'avaient pas d'emploi, donc ils ne feraient pas partie des comités, des productions, etc.
Ouais.
Donc, dans ces trois modèles, il y a toujours le monopole de l'accès, le monopole de l'emploi, des entreprises sur l'emploi pour l'accès aux moyens de notre subsistance. Est-ce que ça remet en cause ça ou pas?
Pour préciser ce que j'ai dit tantôt, c'est que si les gens qui n'ont pas d'emploi n'ont pas de droit de vote sur les lieux de travail où ils ne travaillent pas, c'est justement parce que les décisions qui sont prises là ne les concernent pas. À moins que ce soit des décisions qui aient un impact comme de déversement de produits chimiques dans leur environnement, puis qu'ils soient...
Parce que qui décide de qui travaille,
qui
décide de qui a un emploi
et qui a un emploi. Ah, sur l'embauche? Ok. Ben, eux autres, ils ont genre un comité national d'embauche, là, où tu vas, là, puis ils dispatchent où est-ce qu'il y a des besoins, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme un genre de ministre de la job, là, tu sais. C'est un peu particulier, parce que eux autres, c'est le modèle le plus centralisé qu'on peut qualifier de démocratique juste du bout des lèvres, contrairement comme aux deux autres, là, qui sont vraiment bien ancrés dans les participants. Mais sinon, ici, ben, c'est les employés, tu sais, qui vont se demander... Ben, employés, ça s'utilise presque plus, là, mais c'est comme les travailleurs, travailleuses qui décideraient est-ce qu'on a déjà de la job pour une autre personne? Est-ce qu'on est prête à avoir un autre collègue? C'est eux autres qui le choisiraient. Il n'y aurait pas de patron qui prendrait des décisions, là, tu sais. C'est une économie pleine de coop, là, comme pour dire tantôt, là, tu sais, c'est comme... 100 000 bâtiments sites là, au Québec. Là.
Ça veut dire que non seulement la production est démocratisée, mais l'investissement aussi nécessairement.
Oui, exact. L'investissement à différents degrés. Là. Fait que, si on parle d'investissement à Montréal, ben, le budget serait décidé par les Montréalais, les Montréalais. T'sais. L'investissement au Québec serait décidé par les Québécois, Québécoises. Puis là, il y a une question d'échelle là, sur le comment qu'on décide plus on monte. Puis on n'a pas toutes des réponses pareilles, là, comme j'ai rapidement dit tantôt. Ouais. Mais évidemment que la personne qui n'a pas de travail... Puis là, évidemment, dans leur modèle, il n'y a comme pas de sans-abri. Là, ou en tout cas, il n'y a pas de place là, pour les sans-abri. On ne verrait pas parce que tout le monde aurait... Le logement est démarchandé. Là, avoir tous les besoins sont comblés de façon non monétaire. Là. L'argent... C'est ça. Repensez-y une autre façon. Il n'y a pas de cash qui circule dans toute l'économie, sauf dans les transactions, quand vous achetez des patentes. T'sais. Mais comme tous les investisseurs, le gouvernement, qui pourrait prendre plein de formes différentes, mais il n'y a pas d'argent qui circule. Il y a juste des matériaux. Là. Puis vous, quand vous allez acheter, ben, vous payez avec de l'argent, mais l'argent, il s'éteint tout de suite. Il n'est pas transmis. L'argent comme meurt dans la transaction, si vous voulez. On ne peut pas l'accumuler. Puis il y a une date de péremption aussi sur l'argent. Fait que vous ne pouvez pas l'accumuler. c'est comme des cartes de crédit ou de débit, c'est l'équivalent, là, tu payes. Mais tu n'as aucune monnaie, tu sais, qui circule. Tu n'as pas de possibilité d'accumulation, tu sais. Fait que là, on est ailleurs, tu sais. Fait que tout le logement, tu sais, tu ne payes pas pour ça, tu sais. Tu n'as pas de crédit du logement, ton logement n'est pas payant. Ta bouffe n'est pas payante, tu sais. Fait que on est ailleurs, puis c'est complètement possible parce que la richesse, là, ici, n'est pas. La monnaie, c'est une convention sociale, tu sais, c'est comme une parole, tu sais, je te dis que ça vaut 10 piastres, puis tu me crois, puis tout le monde se croit, puis il y a une loi qui dit qu'il faut croire tout le monde que ça vaut 10 piastres, tu sais. Mais depuis qu'on est sorti de l'étalon or, l'argent n'a aucun ancrage matériel, tu sais.
Oui, mais il n'y a pas des unités de travail qui valent quelque chose?
Ah, complètement, oui. Est-ce qu'on appelle ça monnaie ou pas, c'est une autre affaire, mais tu sais, eux autres, c'est des heures de travail. Eux autres, il n'y a même pas quelque chose comme de la monnaie, mais c'est juste des heures de travail. Fait que c'est sûr, il y a peut-être d'autres problèmes, mais c'est, je t'échange 2h30 de travail pour un bon grilled cheese, tu sais. OK, cool. Ben, tu sais, c'est pas négocié au-dessus du comptoir, là, mais je veux dire, c'est tout des heures de travail, puis on paye juste avec des heures de travail, tu sais. Puis, tu sais, les deux autres, c'est une forme de monnaie, mais qui n'est pas durable, qui n'est pas accumulable. Qui...
Un peu comme ça, dans t'sais. Une coop.
Puis, il n'y a pas...
Tu fais des travaux dans ta coop, tu as certains avantages.
Ouais. Mais il n'y a pas d'argent qui circule dans toute l'économie, là, sauf dans l'échange de la consommation. Là, quand vous allez acheter un sandwich, mettons, ou vous prenez même l'autobus, non, ben c'est gratuit. Donc, l'autobus est gratuit, il est électrique, il est confortable, il est fiable, puis tout. Puis, on a l'argent, en tout cas, c'est un peu ça, là, parce que l'argent, il ne tombe pas des nues. C'est, sur le capitalisme, c'est les banques là, qui créent l'argent là, dans le prêt. Là, l'argent émerge du prêt bancaire. Là, c'est une inscription comptable, tu sais, sur le capitalisme, l'argent, tu sais, c'est... Dans le prêt, l'argent, pouf, elle émerge. Tu sais, quand vous allez à la banque, je demande un prêt, bon, on fait un prêt de X, mais là, pouf, il vient d'avoir création monétaire. C'est comme ça que l'argent se crée. Fait que dans une économie planifiée démocratiquement, mais la création monétaire, elle viendrait pas se faire quand vous arrivez à la banque avec un projet qui est un peu feu follet, mais qui va vous permettre de faire du profit, tu sais. Le seul critère de création monétaire serait pas le profit, tu sais, mais ça pourrait être... Ben, je trouve que dans mon quartier, il manque un café ou un terrain de basket. T'sais. OK, tu sais, je pense que... Puis là, les critères qui seraient évalués par le comité, qui ne seraient pas juste des banquiers, ben, ce seraient des gens qui évalueraient la décision d'investissement en fonction d'autres critères que la rentabilité, t'sais. Le besoin collectif. T'sais. Ben non, mais il y a un terrain de basket à côté. Ouais, mais il est trop. On pense quand même que ce n'est pas nécessaire. OK. Ben, il peut y avoir d'autres critères, t'sais, pour créer de l'argent. T'sais. Puis, en tout cas, il y a beaucoup de travail, t'sais, sur imaginer. T'sais, C'est à quoi ça
pourrait
ressembler, ces
affaires-là?
Oui,
moi, c'est une question sur l'idéalisation des salaires. Oui. Parce que les tâches. Oui. Au niveau de l'idéalisation des tâches, je trouve le concept vraiment intéressant. C'est juste que, mettons, il y a des emplois qui sont tellement demandants au niveau physique, au niveau de temps aussi.
Exact.
Puis que là, le salaire, c'est ça qui m'est compensé de dire, ben moi, je suis chirurgien parce que. Bon, je donne tout ce temps-là, toute cette énergie-là, puis c'est le salaire qui vient comme un peu pallier au fait que je me sacrifie pour ça.
Exact.
Il y a des emplois que c'est vraiment le salaire qui vient combler ça.
Ouais.
Mais là, si on égalise les salaires, ce qui fait que ben, le monde, ils vont quand même vouloir se sacrifier pour faire ces emplois-là.
Ouais. C'est une excellente question parce que ça vient poser la... Puis je pense que pour être plus précis, j'aurais dit égalisation partielle, tu sais, des salaires, parce qu'évidemment, en fait, ça pose la question de comment est-ce qu'on... Quand on échange en fonction de quelque chose comment qu'on compense les jobs qu'on juge comme indésirables, tu sais. Fait que là actuellement ce qu'on fait c'est qu'on paye plus cher, mais peut-être que dans une autre économie, tu sais, on penserait d'autres manières, tu sais. Peut-être que ce serait juste la réduction du temps de travail, ou peut-être que tu aurais droit à, je sais pas, à d'autres choses cool là. Mais tu sais, c'est pas juste en termes de on augmente le salaire, tu sais, que ce serait possible. Puis aussi, tu sais, l'égalisation partielle, c'est que, mettons, tu fais une job éreintante 2 jours semaine, ben l'égalisation des tâches est pensée à l'échelle de la société. Fait que tu pourrais aller à une autre place qui serait évaluée, mettons, à 2 sur 10 de niveau d'éreintement. Là. C'est à peu près ça qu'ils font. Ils évaluent chacune des jobs, pas juste des entreprises, mais en fonction du niveau d'éreintement de la tâche. Fait que tu cherches comme un équilibre social. Fait que tu te dis, ben, si tout est déboire 2 jours semaine, ben, tu pourrais être, tu sais, prof 2 autres jours, ou, tu sais, whatever, là, je sais. Tu pourrais équilibrer en fonction de ce que la personne a le goût de faire, puis des besoins sociaux. Là, évidemment, il y a toujours une forme de tension entre les jobs disponibles, puis l'envie, la volonté, puis les compétences. Mais on parle quand même d'un endroit, d'un système où l'université, puis le cégep est gratuit, là, aussi. Ouais, éducation postsecondaire. Fait que, ouais, puis c'est. Les salaires sont décidés par les coworkers, les collègues, sont évalués à l'effort aussi. Ça, c'est comme intéressant. Ils disent, nous, on ne paye pas à la productivité, fait qu'à la quantité d'output que tu sors de la shop, on paye, ça vient d'eux autres, on paye à l'effort. Parce que la quantité d'output que tu sors, eux autres, ils disent que c'est comme ça que le salaire est évalué sous le capitalisme, c'est faux. Mais ça, c'est déterminé par un ensemble de critères sur lesquels tu n'as pas d'emprise, tu n'as pas de choix. Fait que tu peux être vraiment baraqué par un héritage génétique ou plein d'autres éléments ou avantages qui précèdent ton entrée à job qui vont te permettre de sortir plus de tâches que ton collègue, tu sais. Fait que là, il y aurait une source d'inégalité. Fait qu'eux autres, ils vont évaluer à l'effort. Puis l'effort est évalué par les collègues aussi, qualitativement. Fait que comme ça, il y a s'assurer, tu sais, que tout le monde, personne qui est floué là, là-dedans. Oui, je vais prendre ceux qui n'ont pas posé de questions encore, oui.
Alors, donc, imaginons que vous arriviez à faire cool. Ce système-là, ce qui est appelé.
Non. Il n'y a personne qui a dit ça, c'est vraiment possible.
Aucun de ces auteurs-là ne tient compte de l'éthologie humaine, et c'est ça qui crée un problème. Alors, imaginons que vous arriviez à le faire, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous le faites quelque part, imaginons au Québec, bon, l'histoire nous a montré que toujours une réaction des autres pays. Hein,
ouais.
C'est pas capitalisme non plus, hein, c'est aussi des pays qui sont qui réagissent, et soit ça détruit l'expérience allumée au Chili, qui n'était pas vraiment quelque chose de très menaçant, hein, d'accord, soit si l'État résiste, comme la Révolution française, comme l'URSS, et d'autres cas, ça se radicalise. C'est-à-dire que l'expérience ne peut pas aboutir, on ne lui fout pas la paix.
Ouais.
Si on lui foutait la paix, ça pourrait se réaliser.
Ouais.
On ne lui fout pas la paix.
Non.
C'est comme quelqu'un qui travaille dans un coin, dans une équipe, qui fait bien son travail, mais pas comme les autres, on va tout faire pour qu'il fasse comme les autres.
Ouais.
C'est vraiment humain, c'est comme ça.
Ben, alors, là, c'est...
Alors, il y a une chose, c'est okay. Que, voilà, imaginons que vous le fassiez au Québec. Okay. Alors, vous avez dit, il y a l'armée américaine qui débarque, etc. C'est une possibilité. Donc, je veux dire, comment vous envisagez ça?
Ben, ça que je réponds.
Dans le, vrai. Ça, c'est des gens qui ont écrit, bon, ils sont à deux cerveaux à écrire un bouquin.
Ouais.
Des fois, un cerveau, je veux dire, ce qui fait que c'est des juxtapositions de modèles. Est-ce que vous envisagez plus une réflexion démocratique, c'est-à-dire pas juste quelques universitaires qui font des conférences, mais qu'on réunisse une convention de citoyens pour justement aborder ce problème-là.
Ouais,
vous
auriez
peut-être quelque chose d'un petit peu plus complet que ça.
Oui, bien c'est sûr, là, les universitaires, leur luxe, c'est comme d'avoir du temps de dégager pour réfléchir à ces affaires-là. Fait que l'idéal, tu sais, c'est de vulgariser puis de sortir le savoir des enceintes universitaires pour dispatcher ça, pour que les gens puissent s'en saisir, puis qu'il y ait une vulgarisation, puis qu'il y ait une prise, une emprise, bien pas une emprise, mais que les non-universitaires, si cette catégorie veut dire quelque chose, s'emparent de ce savoir-là pour, tu sais, fait que là, c'est notre job d'écrire des livres, faire des conférences pour, tu sais, socialiser ce savoir-là, mais a priori, tu sais, il y a quand même quelque chose comme un luxe, là, c'est sûr, que d'avoir du temps dégagé pour faire du savoir. Tu sais, les limites dans un seul pays, je répondrai un peu comme j'ai répondu tantôt, là, tu sais, c'est de se solidariser avec d'autres pays, puis les limites de la planification démocratique dans un seul pays. C'est vraiment la question du rapport de force qui va davantage être abordé dans deux semaines, de comment est-ce qu'on accumule suffisamment de pouvoir pour limiter le contre-coup, le backlash ou la réponse capitaliste, genre grève des investissements, genre une armée qui débarque. C'est pas quelque chose à sous-estimer non plus, là, si on va jusque-là. Puis sur l'éthologie humaine, ben, je dirais qu'elle n'est pas fixe. Le comportement humain n'est pas fixe. Il évolue en fonction des institutions, en fonction des sociétés, en fonction des cultures. Donc, de reconnaître ça, ça veut dire qu'on a une emprise dessus, qu'on peut le transformer. Il n'a pas été fixe à travers toute l'histoire. Il y a des sociétés qui ont été organisées autour de principes qui n'étaient pas ceux du profit, de la concurrence, de la croissance. Donc, on peut envisager d'un point de vue même strictement ontologique, là, de qu'est-ce que l'humain est capable de faire. Il n'est pas... Le capitalisme n'est pas le reflet de la nature humaine. On a un mythe à cet effet-là. Donc, ce serait possible, là, en termes de possibilité de ce que la nature nous offre, la porte est ouverte pour mettre en place un système qui ne se base pas sur la même sur la subjectivité capitaliste, je peux dire. Quelqu'un qui n'a pas posé de question encore. Ben, je vais circuler, là, si ça ne te dérange pas, monsieur, merci. Puis, en tout cas, je ne sais pas quelle heure, mais vous êtes fidèle, en tout cas.
Ouais, normalement, on devrait achever ça sous peu.
OK.
Mais pour que tu puisses manger ton grilled cheese, pour pas tomber.
Fais son désir.
Non, mais travail. Si ça va bien, on peut faire un petit extra 5, 10, 15 minutes.
Moi, je suis dans de l'air de temps. Fait que, ben, tu vas commencer par la question que tu as là, puis ensuite.
Oui. Moi, ce que je ne vois pas trop comment solutionner, c'est que quand il est question de prendre des décisions positives, comme on ne veut pas détruire la forêt à côté de chez nous, on voit bien comment ça se règle. Dans ce cas-là, qui va se dévouer pour qu'on prenne le bois dans la forêt à côté de chez lui? Qui va se dévouer pour qu'on dise « Ok, tu mets la station d'épuration des eaux usées qui puent à côté de chez nous » Qui va dire « Ok, j'habite dans un petit appart avec des punaises de lit puis des infiltrations alors qu'il ne paye pas le loyer puis qu'il y a des condos dans le quartier d'à côté ?» Tu sais, j'ai du mal à voir comment les gens vont décider de prendre des niveaux de confort moins bons dans ce genre de système.
Ben,
il faut que ce soit relevé.
Sur, c'est quoi le premier exemple que tu as donné? Excuse-moi, tu as parlé pas
de
punaises.
Tu vois, dans la forêt à côté de chez toi, alors que tu as besoin de prendre
l'évidence. Ah, ben, c'est sur les zones d'épuration. Là. Mettons qu'il y a des désagréments à côté là, de la maison. C'est qui peut habiter là? Évidemment, tu sais, le réflexe de tous ces gars-là. C'est de filer ça en assemblée démocratique, tu sais, puis de qui va tirer à la courte paille. Tu sais. Moi, je trouve ça insatisfaisant, là, je crois. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire que si tu subis un contre-coup dans une des parts de ta vie, dans une des sphères de ta vie, on pourrait accepter de t'accorder un privilège dans une autre sphère de ta vie. Tu sais. Ou est-ce que l'usine... Puis aussi, ça peut peut-être être un faux débat, tu sais. Est-ce qu'il va y avoir des usines d'épuration? Ben, des usines d'épuration, oui, tu sais. On s'en fait peut-être pas, en tout cas. Mais, tu sais, ça peut être possible de la mettre dans les endroits où il y a, où y a personne, peut-être, tu sais. Je sais pas en termes géographiques, tu sais. Dans le meilleur des mondes, mais... C'est certain. Mais, tu sais, je pense que... J'avais eu une discussion avec des amis... Je veux bien la reporter, mais ça veut dire, en tout cas, l'idée, c'est que peut-être que le projet non plus qui vient apporter un désagrément, peut-être qu'il n'est pas nécessaire non plus aussi, à savoir qui le porte. T'sais. Évidemment qu'il va y en avoir des désagréments, alors on n'est pas dans un monde de licornes, mais je pense à l'épuration parce que historiquement, ça a été... en fait, c'est l'émergence du mouvement écologiste, là, le racisme environnemental, où toutes les décharges, les lieux d'enfouissement ont été installés près de populations ben, pauvres et noires. Donc, l'émergence du mouvement de la justice environnementale aux États-Unis. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça pose des bonnes questions. C'est sûr qu'idéalement, soit le désagrément n'existe pas, soit on a la possibilité de le mettre hors de d'état de nuire ou de le mettre le plus loin possible, ou soit il y a peut-être des façons de réduire le désagrément aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, les façons de réduire les désagréments coûtent de l'argent, alors que là, si on aurait des mains sur l'investissement, si je pense aux punaises de lit, aux appartements petits ou des appartements qui sont de mauvaise qualité, bien, c'est souvent dû à un mauvais entretien de propriétaire non habitant, tu sais. Alors que là, c'est illégal, tu sais, la rente, on pourrait s'attendre à ce que les appartements moisis, trop petits, soient quasi inexistants ou soient en vraiment moindre partie, tu sais. Les usines d'épuration, je connais mal là, les techniques qui pourraient être utilisées pour atténuer les désagréments d'odeur des usines d'épuration ou des usines de pâté-papier. Mais je pourrais envisager qu'il y a des façons de traiter ou d'atténuer les désagréments qui coûtent de l'argent aujourd'hui, qui ne sont pas utilisés par les entreprises parce que c'est non jugé comme bénéfique.
Mais qui pourraient être faites. Si on regarde juste les toilettes à compost.
Et là, on est rendu loin des gros problèmes de socialisation des moyens de production.
C'est de reprendre les problèmes à une petite échelle.
Oui, 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 je comprends.
On n'est pas obligé de les traiter à une grande échelle pour commencer.
Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. T'sais, on ne dit pas que ça va être parfait, les personnes que ça va être facile non plus. Mais si on est rendu dans la toilette à compost, on a comme réussi une bonne partie du chemin. Je vais me réussir. En tout cas, je vais me permettre cette réponse-là à l'heure. Oui. Mais bonne question quand même. Il y a quand même un nœud, là, c'est sûr. Vous avez
dit tantôt, si j'ai demandé, que. Il faudrait concevoir deux ou trois générations avant de mettre ça sur pied.
Oui, lui, c'est ce qu'il dit. Il ne nomme pas de nombre, mais il faut.
Donc, ça veut dire encore un bon 60-75 ans.
Ben, il a écrit ça dans 89. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas l'ultimatum écolo là, qu'on a là, devant eux. Ouais.
Parlant d'école, justement, les autres pendant, avec le COP, on est rendu à COP 26. Donc, ça veut dire que ça fait 26 ans que l'hiver se rencontre pour décider de faire attention à notre planète. Hein? OK. Là, cette année, on avait dit la dernière fois qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 de...
Oui, c'est ce que l'accord de Paris dit.
On en est aujourd'hui à 1,1.
Oui, je pense même qu'on a atteint 1,2 là, il y a quelques mois qu'on s'en vient vers 1,3 là, dans la prochaine année.
Alors là, 50,
50,
ben disons 50 parce
qu'il y a
quelques années passées.
On est tous brûlés,
ben.
Ben
c'est ça.
Mais ça pose une bonne question. Poser une bonne question qui est le premier mythe de la section qui va être abordée dans deux semaines, c'est-à-dire, ben oui, c'est bien beau la démocratie, mais c'est slow votre affaire. T'sais, là, on a le feu
faut
faire ça vite. Ben oui. Fait que pour répondre rapidement, parce qu'Alain va en parler en détail et sûrement mieux que moi, je vous invite d'ailleurs à être là pour Alain, là, qui est vraiment un communicateur d'une simplicité désarmante. Là, qui dit, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je pense. Merci de me dire ce que je pense, Alain. Tu me connais, tu me comprends. Fait que, rapidement, l'envers de cette question-là, c'est de dire, ouais, mais peut-être qu'on pourrait comme conseiller une partie de notre pouvoir décisionnel à une gang en haut qui décide rapidement, mais pendant pas longtemps, ça durera pas longtemps, on va prendre les bonnes décisions environnementales, puis ça va être pour notre bien-être. Historiquement, j'ai parlé un peu tantôt, mais quand on retire un pouvoir décisionnel à un groupe social, c'est rarement pour défendre ses intérêts. Fait qu'une dictature écologique, étant donné que les populations défavorisées sont moins responsables de la crise écologique et écopent davantage des conséquences de la crise écologique, on peut difficilement s'attendre, si on leur retire un pouvoir, leur pouvoir décisionnel, que leurs intérêts soient défendus par une dictature écologique. Fait que là, on a comme un enjeu. L'avantage de la démocratie, c'est qu'elle va s'assurer de respecter ou de prendre en considération, à tout le moins. On n'a pas de garantie, là, la démocratie non plus, c'est pas parfait. T'sais. C'est juste à date, puis peut-être qu'on se trompe, peut-être que je me trompe, mais à date, c'est comme le système qu'on trouve le plus adéquat pour répondre aux besoins de tout le monde, de défendre les intérêts de tout le monde. L'affaire, c'est que ça va être la manière de s'assurer que les plus défavorisés, leurs intérêts, soient le plus facilement défendus dans le cadre de la crise écologique. Ça ne règle pas la question de l'ultimatum, mais ça reste la meilleure manière qu'on a de sauver des vies, au final, là, dû au changement, au bouleversement climatique. T'sais. C'est de donner un pouvoir décisionnel aux gens qui sont en train de déménager à cause de la crise écologique ou d'acheter des terres.
Oui, mais ces mêmes gens-là sont ceux qui votent pour un drame, par exemple.
Ah, ben là, ça pose d'autres questions. Puis là, je me permets de pitcher ça dans le cours de Alain pour dans deux semaines, la question des comportements électoraux là, ou politiques. Mais hein, il dit que tout le monde, on est trop individuel pour envisager la question environnementale. Ça, je vous invite à dans deux semaines.
Merci.
Vous êtes, oui?
Déjà, je te remercie pour la présentation, puis je remercie les membres de l'UPOC pour l'organisation de la présentation. J'avais plus une question pratico-concrète de savoir est-ce que dans ces trois modèles ou dans d'autres, il y a une présentation de comment on pourrait construire de manière collaborative, de manière constructive pour réduire les inégalités, essayer de prendre en compte un maximum de personnes et réfléchir avec plein de cerveaux. Comment on organise finalement cette planification et comment on peut la construire de la manière la plus collaborative pour se poser toutes les questions qui sont issues de la diversité humaine finalement?
Ouais. Ben, je réponds par la partie que je n'ai pas répondu encore, parce que la portion de mettre en place des institutions pour éduquer là, les gens sur la démocratie, puis comme des écoles. Évidemment, que nos écoles d'économie ne soient plus les écoles du capitalisme, parce qu'à date, c'est ça. Quand on fait un bac en économie, tu fais un bac en capitalisme. Ben, c'est toujours implicite, mais le type d'économie qu'on étudie, qu'on apprend actuellement, c'est ça. Il pourrait y avoir, ça pourrait être enseigné, ce serait idéalement enseigné, primaire, secondaire, cégep, université, d'apprendre des types de comportements pour participer à des assemblées générales. L'autre affaire, c'est que Il va y en avoir qui vont s'opposer à ça, tu sais, même à l'échelle nationale. Pas juste parce que je veux mon burger puis mon pick-up, là, mais il va y avoir des... On a il milite en transition au Québec. Il y a des capitalistes qui vont s'organiser pour. Ils le font déjà, c'est pour lutter. Fait qu'il va falloir aussi s'arranger contre eux autres. Mais
oui,
c'est peut-être
ça, pas. Non, c'est parce que je crois qu'effectivement, de toute manière, 20% des populations sont toujours contre. Peu importe le compte, c'est juste une histoire de psychologie humaine. Je ne demande plus, justement, quand on met en place ces systèmes-là, je veux dire, aller à l'université dans notre système actuel est déjà une forme de sélection d'une certaine classe représentante.
Ouais.
C'est plus de savoir est-ce que dans leur modèle, ils se sont posés la question de comment on essayait d'annuler un peu ces...
C'est sûr que dans leur trois modèles, il n'y a pas de frais de scolarité, même que il peut y avoir des formes de revenus universels garantis de from cradle to filth, du berceau jusqu'au cercueil. Tu es rémunéré, puis en plus, ton éducation post-secondaire ne te coûte rien. Fait que là, tu coupes un peu là, cette barrière à l'entrée, pas mal, cette barrière à l'entrée-là.
Mais à l'après-transition, en fait, les solutions qui
sont proposées
sont plus à
l'après-transition. Eux autres, ce ne sont pas des gens qu'on veut lire sur la transition en tant que telle. Mm-hmm. Leur spécialité, c'est à quoi ça va ressembler après. Puis, ce n'est pas une finalité non plus, parce qu'il va toujours y avoir des affaires à travailler. Là. C'est une autre étape. Ce n'est pas la destination finale aussi. Là. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut garder en tête quand on pense à ces affaires-là. Mais comme aujourd'hui, avant que l'université soit gratuite, mettons, ou qu'on puisse mettre en place ce qu'eux proposent pour démocratiser l'accès aux compétences nécessaires à l'opération d'une démocratie économique, bien, faire ce qu'on fait, je dirais, là, s'informer, lire, en parler autour de soi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Étant donné qu'on n'a pas les ressources infinies, il faut s'organiser avec les moyens du bord, mais oui, un petit peu, pour apprendre à faire ces choses-là. Puis comme j'ai dit, de façon plus concrète, s'impliquer dans ces assemblées, comité de parents, ruelle verte, association étudiante, association, s'impliquer dans son syndicat, participer aux assemblées générales, apprendre les modes de fonctionnement. Puis là, on va voir les limites aussi des modes de fonctionnement de la démocratie. Puis c'est quoi les limites? Il y en a plein aussi, là, mais ça reste mieux que ce qu'on a actuellement où il n'y en a pas de démocratie. Mais il y a d'autres limites à la démocratie aussi. C'est ça. Fait que, je dirais ça. T'es encore bon pour d'autres questions? Oui, une dernière peut-être?
Moi, je voudrais savoir, je suis
rapidement.
Complètement d'accord avec le fait qu'il faudrait injecter la gratuité au monde de fonctionnement sociétal dans lequel on évolue. Mais je me posais la question de savoir aussi comment est-ce qu'on va réussir à motiver les gens s'ils savent que leur appartement ou leur maison sera gratuit, s'ils savent qu'ils n'auront plus à payer pour leur épicerie. On va réussir à les motiver à faire des études pour devenir, par exemple, médecin, pour endosser les tâches les plus ingrates.
Ouais.
Comment on va réussir à les motiver à faire ça, par exemple?
Ouais. Sur les tâches plus ingrates, je pense avoir répondu un petit peu tantôt, là, qu'on peut envisager les formes de compensation. Aujourd'hui, on les envisage sous forme monétaire parce qu'on évolue à l'intérieur d'une socialisation capitaliste, mais il y a probablement d'autres formes de compensation qui peuvent être réfléchies pour des tâches ingrates, indésirables ou éreintantes. Ceci étant dit, comment on incite aussi, je pense, une autre partie de ta question, si je ne me trompe pas, comment on incite les gens à participer à la patente s'ils ont tout un peu de gratuit?
C'est ça qui est un revenu garanti universel, qui n'ont pas décidé de choisir, qui n'ont pas choisi de...
Oui, ils travailleraient
aussi.
Ça, c'est pas une dimension de mémoire, là, parce qu'ils ont quand même plusieurs livres et articles chacun, là. Mais de mémoire, comment ils abordent cette question-là, ou en tout cas, non. Moi, ce que je te répondrais, ça va être plus simple, c'est qu'il y a quand même une ontologie humaine, comment on conçoit l'humain. L'humain s'active, par définition. Pour vivre, il faut travailler. En journée de congé, on s'active. C'est pas vrai que les gens ne font rien. Puis on peut faire rien pendant un bout, parce qu'on est à bout. T'sais. Après une fin de session, on s'écrase, puis on se repose. T'sais. Mais à l'échelle d'une vie... On pourrait s'attendre, à tout le moins, là, sur les études sur le comportement humain, que les free riders, là, qu'on appelle, là, ceux qui bénéficieraient du système sans y participer, seraient une minorité là, d'un point de vue ontologique ou anthropologique. Là. Les gens s'activent par définition. Ça, c'est comme une anthropologie qui est assez acceptée, en sociologie, là, l'unité d'étude de la sociologie, c'est l'action humaine.
On s'active parce qu'on vit dans un... bon, société dans laquelle on est obligé de payer pour un certain nombre de services pour
ouais.
déjà
mais comment est-ce qu'on explique d'abord le ça? Voilà. Mais comment est-ce qu'on explique le bénévolat ou les gens qui s'impliquent à la retraite? Ou comment est-ce qu'on implique toutes les formes de dons, de contre-dons, de gratuité, d'open source, des affaires comme Wikipédia, historiquement? Ou comment t'expliques le fait que, tu sais, toutes les je viens d'avoir un enfant, là, toutes les relations humaines, familiales, de qualité qu'on a avec des amis qui ne sont pas monétisés, puis une crise de chance, là. Je veux dire, on a besoin de ces relations humaines-là, tu sais. Puis ils ne sont pas. Ils ne sont pas motivés par l'argent. Ce serait une bien piètre explication de la nature humaine que de justifier l'ensemble de l'action humaine par de l'argent. Ou juste un attrait, ouais, une compensation financière. T'sais. Comment qu'on peut... Ça peut être par la reconnaissance aussi. Ça peut être par des raisons symboliques, par...
des modes de gratification différentes.
Qui ne sont pas monétaires, tu sais. Puis évidemment, tu sais, si toi, t'es dans ton quartier, puis là, t'as ton voisin qui va toujours à l'assemblée, là, puis lui, il veut un skatepark, là, parce que lui, il fait du skate avec ses chums, puis toi, t'en veux pas, tu sais. Tu vas finir par y aller parce que tous tes intérêts sont pas défendus, tu sais. Fait que ça peut servir d'émulation que tes voisins participent aux assemblées démocratiques parce que leurs intérêts vont davantage être défendus, pas les tiens, fait que... Tu sais, que tout le monde y aille, si toi tu y vas pas, ben, tu as la possibilité d'y aller, c'est ça qui est cool, tu sais.
Je pense que je vais saisir la balle au bon pour clore ici en disant que vous êtes tous venus ici avec une motivation intrinsèque et que vous reviendrez sans doute dans 2 semaines pour la suite. Merci beaucoup, merci Frédéric.
Ben,
c'est cool.
Assemblée
délibérative.
Ben oui, hein? Tantôt, éternel. Hey, 10 ans moins 4,
c'est bol. Ouais, moi, j'ai de l'école demain matin. C'est tellement rare, de vivre ces moments-là. Ouais, là, c'était
intense. Ouais.
Ah, non.
C'est correct, ouais.
Non,
pas trop long, ouais.
Non. Moi, j'ai ma vie. Je suis pas un DEP, là, donc...
Ben, quand même content.
Mais c'est super.
Ça répond autant, là. Moi, j'ai vraiment des réponses aussi positives.
Mais c'est clair, là. Il y a un super. Hey, mais la question de la fille tantôt, là. Un super article dans le Monde Diplo encore en 2018. Il y avait eu 3 académiciens qui s'étaient mis ensemble, qui avaient dit OK, là, si on arrête demain matin, là, genre, on fait fuck le capitalisme. Mais ils avaient utilisé la France, là, puis on utilise juste des outils déjà utilisés auparavant.
Mm-hmm. Salut. Merci.
C'est vrai que c'est long. Ben, tu sais, j'avais.